Et oui, vous avez reconnu notre générique, le générique de Vendredi Théâtre. Il s'agit d'un extrait de Roméo et Juliette de Prokofiev avec Andrei Gavrilov au piano. Générique qui nous accompagne depuis maintenant 3 ans, depuis les débuts de cette émission. Vendredi Théâtre, donc l'émission qui commente l'actualité théâtrale sur Montpellier. Je suis avec les chroniqueurs de l'émission, avec Grazia qui est là avec nous. Bonjour Grazia.
Bonjour.
Je suis avec Christopher.
Bonjour, bonjour Christopher. Bonjour.
Et nous attendons toujours l'inénarrable Tito Livio. On va commencer tout de suite sur des chapeaux de roue avec un spectacle magnifique qui se déroule actuellement au 13 vents. Il s'agit de Sainte dans l'incendie. Et j'ai le plaisir, le bonheur et l'avantage de recevoir Laurent Fréchuret, qui est auteur et metteur en scène. Bonjour.
Bonjour.
Et Laurence Vielle, qui est comédienne et qui est Jeanne.
Bonjour.
Bonjour. D'abord, Sainte dans l'incendie, c'est un texte. Donc vous êtes l'auteur, vous êtes le metteur en scène. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la genèse de ce texte ?
La genèse et la jeunesse. Il y a des phrases qui remontent à 30 ans, en fait. Il y a 30 ans, hein, j'avais, je sais pas, 16, 17 ans. Et ça a été des milliers de bribes vécues, des petits poèmes comme des haïkus, on pourrait dire. Mmh. Et puis, j'ai très secrètement accumulé dans des carnets comme un journal intime. Et puis, au bout de... Il y a 15 ans, j'avais à peu près terminé. Et j'ai rassemblé toutes ces petits haïkus, je les ai collés sur une espèce de colonne vertébrale de fil conducteur qui est Jeanne d'Arc, qui arrivait très tard, mais qui a servi à faire de tous ces petits poèmes un texte. Et après, l'ambition et le désir, c'était que ça soit dit, que ce soit incarné, parce que ça soit vraiment du théâtre, que ce soit physique, que ce soit sensuel, que les mots soient partagés avec toutes sortes de gens aussi. Et je pense que le théâtre peut être encore plus populaire que d'enfermer ses textes dans un livre de poésie. Mmh. Et la rencontre avec Laurence, il y a 8 ans, a été pour moi une révélation. Et c'est devenu cette pièce-là. Voilà. Ça remonte à très loin, pour tout vous dire, cette chose. Et elle est très personnelle avant d'être Jeanne d'Arc seulement.
Moi, j'avais un petit peu l'impression, en écoutant le spectacle, que le texte avait été écrit pour la comédienne. Et en fait, pas du tout.
Eh bien, on
parce que vous
dire...
l'incarnez tellement extraordinairement qu'on a l'impression que ce sont des mots pour vous.
Mais c'est vrai que d'une façon magique et anachronique, je suis persuadé de l'avoir écrit pour elle avant de la connaître. C'est vrai. Ça arrive dans la vie. Hein, c'est comme les histoires d'amour. Qu'on dit, oh, c'est un peu magique, quoi, cette histoire. Mais là, effectivement, Laurence, c'est une sœur jumelle de théâtre et de vie.
Alors, Tito nous a rejoint dans le studio. Bonjour, Tito.
Bonjour.
Eh bien, tiens, ben, commence. Donc, tout le monde a vu la pièce dans le studio. Donc,
On a parlé de la comédienne. Moi, j'ai beaucoup aimé le texte. Je le trouve très beau. Là, je viens d'apprendre des choses sur sa construction. Par rapport au jeu, j'ai trouvé surtout que c'était très facile de cabotiner et que vous ne le faites pas du tout. Et ça, c'est vraiment difficile avec ce texte, de ne pas cabotiner, ne pas surjouer, des choses comme ça. Puis il y a une façon très belle de laisser plein d'ambiguïté sur le personnage. Est-ce que c'est une demeurée qui parle de Jeanne d'Arc? Est-ce que c'est Jeanne d'Arc elle-même? Est-ce que c'est vraiment une demeurée, d'ailleurs, aussi? Donc, moi, j'ai bien aimé ça. Et puis, il y a des belles phrases. C'est difficile. Alors, c'est très difficile de dire du bien, visiblement, parce que déjà, la semaine dernière, j'avais un mal fou à dire du bien d'une pièce. Parce qu'on tombe très vite dans les banalités. Si c'est pour être méchant, c'est plus facile. On fait des aphorismes et des trucs comme ça. Là, je suis plus à l'aise, d'ailleurs, dans la méchanceté. Voilà. Bah, c'est mes impressions comme ça en sortant. Par contre, si on est hypocrite, là, on n'a pas beaucoup de choses à s'accrocher parce qu'il n'y a pas de décor. Donc, on ne peut pas dire « Ah, j'ai beaucoup aimé le décor », des choses comme ça. Mais...
Il faut préciser que c'est dans la petite salle des 13 vents, c'est-à-dire que Jean-Marie Besset a eu la très bonne idée de faire vivre cette petite salle pour des spectacles plus intimistes, qui marchent mieux en fait, dans un espace plus restreint que sur le grand plateau des 13 vents. Alors, je vais me tourner vers Laurence pour cette interprétation de Jeanne. C'est vrai que, est-ce que c'est Jeanne qui parle? Parce qu'elle parle toujours d'elle à la troisième personne.
Ben moi, en travaillant, en tout cas, je ne me suis jamais dit que j'étais Jeanne. J'ai d'abord essayé d'apprendre tous les mots de Laurent. C'était un long, grand travail. Et puis, je suis d'abord les mots et l'écriture de Laurent. Et puis après, cette écriture, elle est un peu hallucinée. Donc, ça doit forcément un peu m'emprunter et faire ressortir de moi la part peut-être plus hallucinée, sans doute. Après, parfois, je me sens très moi-même aussi. face à ces mots, avec ces mots. Parfois, oui, je sens que ça voyage, oui, entre une narratrice et entre l'empreinte d'un personnage. Oui, ça voyage entre tout ça.
Il y a une spectatrice qui me disait l'autre jour, j'ai l'impression que vous êtes sur deux tableaux à la fois, et c'est ça qu'on navigue, c'est une narratrice hallucinée.
Oui.
C'est-à-dire que c'est totalement incarné, en même temps totalement, des fois en distance et en complicité avec nous. Elle n'oublie pas du tout qu'en face, elle a des spectateurs, et puis elle nous tutoie. Elle tutoie chaque spectateur, elle les regarde dans les yeux. Et j'aime beaucoup ce « dedans-dehors » qui, quelque part, me fait penser à ce que, par exemple, ce qu'on aime chez Brecht, quand il parle de la distanciation, mmh, célèbre effet d'étrangeté, etc. Et ben finalement, c'est une façon parmi mille d'incarner cette recherche d'une distance critique et en même temps d'une joie et d'un plaisir théâtral au présent, de la présence théâtrale. Voilà ce qu'on aime et ce qu'on cherche, en tout cas.
Christopher, tu vas incarner un petit peu la voix de l'historien.
Oui, je m'attendais à cette remarque de ta part, Florent. La voix de l'historien, je vais éviter. Je ne vais pas au théâtre pour voir un cours d'histoire ou pour cela, je lis les livres d'histoire. Non, je vais au théâtre pour voir un spectacle et un très bon spectacle en l'occurrence avec Sainte dans l'incendie. C'est une pièce où j'ai eu dans les 10 premières minutes un peu de mal à entrer dans le texte. Parce qu'au départ, je ne suis pas. C'est un texte un peu décousu au départ. Peut-être ça vient de l'assemblage d'haïku, ce côté un peu halluciné. C'est quelque chose à la base où j'ai un peu de mal, même avec une écriture un peu moderne, j'avais l'impression, et un jeu un peu halluciné. Mais la conjonction des deux fait que je suis entré. Bon. Au bout de 10 minutes, et je n'ai plus rien lâché jusqu'à la fin.
Donc il faut qu'on travaille l'attaque.
Mais c'est mon avis personnel, hein. Je sais pas, je ne connais pas la vie des autres.
Je prends toutes vos remarques comme des notes de travail, j'adore le travail collectif.
Mais je suis vraiment rentré dedans, et l'interprétation de Laurence, vraiment, au fur et à mesure... À la fin, j'ai soufflé, j'en avais pris plein. C'était vraiment une pièce très forte au bout d'une heure. J'ai remarqué, il y a un jeu avec le public.
J'ai besoin de vous, ouais. Non, raconter l'histoire.
Mais des fois, je vois des pièces où les comédiens jouent avec le public et des fois, c'est exagéré, c'est trop fait. Je n'arrive pas, mais là, vous n'en faites pas trop, c'est sobre, c'est efficace. Et c'est aussi quelque chose que j'ai apprécié.
C'est vrai que le soir où j'y étais, vous m'aviez reconnu dans le public comme étant Charles VII.
Voilà, c'est vous que j'ai choisi comme étant
pourtant, j'étais là incognito.
L'homme que j'allais couronner à Reims. Et vous avez très bien...
Je porte très bien
la couronne. Voilà.
Oui, mais vous l'avez trahi quand même, vous êtes dégueulasse.
Gradia.
Eh bien, moi, j'ai été enchantée dès le départ. Je suis rentrée tout de suite dans le texte. J'ai halluciné moi-même de voir cette interprétation de Laurence qui joue avec une telle générosité et avec son corps, ses yeux. Elle bouge, elle s'adresse au public. C'est vraiment une communion totale, en tout cas qui s'est instaurée entre elle et moi lors de cette performance qui est vraiment unique. Moi, je me suis demandé, mais comment elle a pu tenir cette expression du début à la fin, comment est-ce possible? À part un talent fou, mais aussi un travail d'une rigueur, incroyable, je suppose que ça vous a demandé quand même une préparation.
Ah oui, puis Laurent, il reste très très attentif, il vient, parce qu'un monologue, c'est un monologue, mais il se fait que ça se fait vraiment à deux. Justement, comme c'est un grand vertige de traverser ce texte tous les soirs et parfois des nombreux soirs de suite, le regard de Laurent, ça devient plutôt un dialogue entre nous deux. Et Laurent est très rigoureux. Et il me resserre. Il dit « Ah là, attention !»
Synonyme de chiant.
Non, pas du tout. Non, pas du tout. Synonyme de... Non, tu fais ça avec beaucoup d'amour et j'accueille tout. Non, et donc il me... Voilà, oui, c'est rigoureux en tout cas. C'est une partition.
Moi, ça m'a beaucoup dérangé qu'à un moment donné, il y a eu deux personnes qui ont quitté la salle. Je suppose qu'ils étaient du Front National et qu'ils s'attendaient à vous voir en armure.
Non, il paraît qu'elle a eu un malaise, la pauvre.
Ah bon, là, d'accord. Ouais. Alors voilà.
Vous êtes orientée.
Alors autant pour moi.
Respectez les malaises.
Non, mais c'est vrai que ça nous a un peu dérangé, quoi. Parce que plus, il n'y a pas de sas, donc on a eu toute la lumière. Je ne sais pas, ça ne vous a pas dérangé du tout.
Ah bah, un petit peu, puis je me suis dit, bon, bah, continue, hein, y a que ça à faire.
Ah ouais, non, mais de toute façon, c'était merveilleux. Franchement, je vous remercie. Moi, j'ai passé un moment extraordinaire.
Ah bah, merci, Gradia.
Mais c'est vrai que c'est un spectacle où il y a la conjonction parfaite entre une écriture. Moi, j'ai beaucoup, beaucoup apprécié le texte, l'écriture. Ah ouais. Et l'interprétation complètement habitée que vous avez. Et cette conjonction-là est tout à fait merveilleuse.
Alors, le texte est édité au Solitaire Intempestif, la Absolument. Très belle maison d'édition de Absolument. François Bérer. Je fais un petit peu de pub quand même, parce que c'est important aussi que
Et je vous
les
ai
écrits
fait
soient
de,
sur des pages blanches.
Il y a des gens que je connais au Portugal de vous acheter.
Au Portugal,
oui. On cherche des traducteurs, d'ailleurs.
Je connais quelqu'un qui est tout à fait dans le genre de prendre ce genre de truc.
Je suis persuadé que traduit en espagnol, ce serait, ou en portugais, ça serait très sensuel. Et Laurence pourrait l'apprendre.
En portugais, ça peut très bien marcher.
Ah oui, oui.
Ouais, je crois.
Ouais.
Je suis passionné par les Sud-Américains, en fait. J'ai monté Copie ou des choses comme ça. Où j'adore Daniel Véronèse, enfin, tous ces grands hommes de théâtre argentins et autres. C'est formidable.
Moi aussi. Ah, beaucoup, beaucoup.
Mais c'est vrai qu'à Vendredi Théâtre, dans cette émission, nous sommes très cosmopolites, puisque nous avons deux voix portugaises, nous avons une voix italienne et une voix bretonne en ma personne.
Et belge, aujourd'hui.
Et belge.
Ah, vive les Belges, j'adore les Belges. Ouais. Et alors ça, voilà, je ne voulais pas le sortir parce que je le sors à chaque fois, mais je vais le sortir. Parce qu'en plus, il y a quelque chose de belge quand même là. Parce que cette façon que vous avez en Belgique de faire des choses extrêmement difficiles, extrêmement intellectuelles, entre guillemets, d'une façon tellement simple, tellement populaire, tellement généreuse, tellement pas du tout, snob, tellement pas universitaire. Vous voyez, moi, bravo, j'adore tout ce qui vient de Belgique. Quand je vois Belgique, je vais.
Moi aussi.
J'y vais, moi, tout de suite.
C'est vrai que Tito, à chaque fois qu'il a l'occasion dans cette émission, il pousse des grands cris d'amour à la Belgique.
Et puis on bouffe bien.
Oh oui, et les Belges sont très très sympathiques. Attends, ils aiment bien la bouffe, ils aiment bien...
Je dirais d'autres choses, mais c'est pas le mot.
Laurence, est-ce que ce serait possible, je sais que c'est un exercice difficile de s'exprimer au micro, d'avoir un petit extrait?
Ah bah oui, bien sûr. Donc je vais dire le début, un peu le début du texte en enlevant certaines phrases. Donc ça commence comme ça. C'est l'enfance d'une évasion. Don Rémy, frontière de Lorraine, bord de Meuse, pays rural dans un monde étranger. 100 ans de guerre dans un sentier peureux. Né à 3 heures, sous les forceps, Jeanne, sur la peau de qui on peut déchiffrer cette tache de naissance, tu vieilliras mal. Je suis une cocotte minute, je ne connais pas l'ennui. Elle chante à tue-tête dans les toilettes. Elle adore la statue de sel, l'ergot de seigle, la colonne de vent. Je passe un petit peu. Je tisse d'étranges tapisseries que je défais quand je ris. Jeanne pourrait rester là des siècles à mâcher son épi en guise de paradis. Mais, à 13 ans, les premières voix font irruption à même la vie. Marie ouvre la bouche et tout s'éteint. La Vierge parle à Jeanne. Seigneur, sa voix résonne comme dans une salle de bain. Elle la chérit, quel mal de tête, quelle audace et si fière, quelle honte. Jeanne grimace et de toutes ses voix fait un paquet aussitôt mis aux oubliettes. 3 jours, et de nouveau, la Vierge se déverse dans son oreille. Seule Jeanne la voit, sainte Vierge au milieu des vendangeurs. Elle paraît si jeune, Jeanne se cache dans les fougères. 2 jours encore, et la Vierge parle sans énigme. Tu as la clé, j'ai la serrure.
Wow. Bravo, c'était magnifique. Ah, voilà, magnifique, magnifique. Merci pour ce
merci.
Cadeau
avec plaisir.
Que vous nous avez fait.
C'est les mots de Laurent.
Merci beaucoup pour votre...
Oui, pour votre enthousiasme, votre ça enthousiasme, fait plaisir. On est bien à Montpellier, on se sent bien dans ce théâtre aussi.
Votre très jolie quatuor de voix aussi. Oui. Merci beaucoup.
Oui, quelle jolie émission. Et puis aussi, remercier qu'au 13 vents, on est vraiment magnifiquement accueillis. Puis c'est un théâtre dans lequel on se sent très très bien. Et voilà. Et il y fait chaleur humaine, oui, comme elle dit Jeanne,
oui,
dans le texte.
Oui, chaleur humaine, très belle présence. On est très heureux, très, très bien accueillis au 13 vents. Ouais,
et... Divergence aussi. Aussi, hein. Le public aussi.
Mais ouais. C'est vrai que nous, à chaque fois qu'on va au 13 vents, et ça nous arrive très régulièrement, on a un peu l'impression de rentrer à la maison, hein, oui, nous, en vrai. Tant que spectateurs.
Oui, on remercie vraiment Gilbert Desvaux et Jean-Marie Besset de cette invitation. On est très, très heureux ici. Merci à vous.
Est-ce que vous avez eu des réactions du public, à part bon, ce public qui sortait pendant le spectacle? Quelles ont été un petit peu les réactions?
En général,
vous en général, oui.
Ben, en général, c'est bien reçu. Et les gens sont touchés pas de rencontrer le texte.
Beaucoup de gens restent après pour discuter.
Oui.
Hier, on avait l'association, c'est la Lune Bleue, c'est ça? Comment il s'appelle?
La Bulle Bleue.
La Bulle Bleue.
Ouais, François Pontalier.
Oui, qui font un très beau travail et ils étaient très touchés. Enfin voilà, il y a beaucoup de spectateurs qui restent aussi pour...
Les historiens sont un peu plus choqués par la non-historicité.
On nous a reproché qu'il y a des choses anachroniques, évidemment. Il n'y a pas de cocotte minute ou de... À l'époque...
Mais peut-être pas de forceps, d'ailleurs.
Oui, les forceps, personne ne me l'a sorti, celle-ci. Non, j'attendais que quelqu'un dise...
Si ma mémoire est bonne, c'est au 16e, donc... C'est Ambroise Paré, je crois.
Ah, bravo.
Bravo.
Non, mais c'est vrai que c'est un texte tellement poétique, tout ce côté historique, on s'en fout complètement. C'est la beauté de l'écriture, la beauté de l'interprétation. Moi, j'ai été complètement transporté.
On va rappeler que le... Oui, je voulais juste dire, quand vous me demandez des réactions, moi, je sais que là, je viens d'être en résidence à Dijon dans un hôpital psychiatrique et que j'ai beaucoup pensé ces derniers temps en jouant à toutes ces personnes qui entendent des voix et qui sont actuellement mises vraiment au banc d'un monde. Et alors, je trouve que c'est magnifique parce que Jeanne, à son époque, elle entendait des voix et elle a pu y aller à fond, quoi.
Moi, je crois vraiment que Jeanne, c'est quand même, pour parler du fond aussi, c'est que Jeanne, c'est vraiment quelqu'un qui a dit que les mots sont des... Que les mots sont des virus, en général. Hein. Le langage crée la pensée, crée la réalité, crée tout. Les mondes, créateurs de mots, créateurs de mondes. Et que Jeanne d'Arc, finalement, a utilisé un très beau virus en inventant des mondes magnifiques, en écoutant ces voix qui la traversent, qui sont peut-être de l'inspiration, qui sont peut-être comme un metteur en scène ou un comédien est traversé, ou un artiste est traversé par des choses qu'il va partager, restituer comme un nouveau langage, qui crée un nouveau monde, et qui déjoue les mots virus, qui eux sont très nombreux, mais les mauvais virus, les gens qui utilisent les mots pour faire de la langue de bois politicienne ou de la langue de média, je ne parle pas de vous bien sûr, petits médias magnifiques que vous êtes, mais des grands médias, la TF1 et tout, qui eux utilisent vraiment le langage pour détruire, pour simplifier, abêtir l'homme en simplifiant la pensée, en supprimant les nuances et tout. C'est oui ou non, mais c'est pas peut-être ou je doute. Alors Jeanne d'Arc, c'est quelqu'un qui invente vraiment. Et pourquoi on a envie de faire de la poésie et qu'elle sorte du bouquin, parce qu'elle est incarnée, parce que ça va toucher plus de gens, ça va ouvrir le théâtre, quelque chose qui doit être populaire et pointu. Et voilà, donc c'est vraiment aussi un acte, je pense, de vie, de joie, mais aussi de résistance par le plaisir. C'est bien quand même à un moment d'être un peu sérieux et de dire que derrière, il y a quand même un vrai combat joyeux, toujours, parce qu'il est encore plus fort, parce qu'il est joyeux, mais avec des mots. Et plus on trouvera des nuances et de nouveaux mots et de nouveaux mondes, et plus on sera fort contre ce qui est en train de nous bouffer dans cette société dangereuse.
On va rappeler que le spectacle s'appelle Sainte dans l'incendie. La dernière, c'est ce soir au 13 vents.
Et venez.
Venez, allez-y, c'est merveilleux. On va se quitter. Merci de nous avoir accompagnés pour ce premier plateau.
Merci beaucoup.
Avec une référence, n'oublions pas que le compagnon d'armes de Jeanne d'Arc, c'était Gilles de Rais. Et j'ai retrouvé dans mes archives une chanson de Alain Oranche qui s'appelle « Miserere pour Messire de Rais ».
Oh, je vais l'écouter.
Seigneur, je vous ai confessé de si horribles forfaits qu'ils suffiraient à faire condamner 10 000 hommes. Alors pourquoi vous tourmenter et moi avec. Prélati va chercher cet enfant si belle et si gracieux, rétribue largement les géniteurs soucieux et leur dit qu'il n'est point de souci, il sera fort choyé en notre seigneurie. Mais mordieu à Rouen, t'es prêt là, on rôtit la pucelle, et je suis encore là à bâtir tes chapelles, où j'épuise mon or à glorifier le ciel, et je clame et j'implore, et mon vin tourne en fiel au milieu de ces fastes. Le chien, quand il a faim, retourne à son vomi, j'en appelle à tes saints, à la Vierge Marie. Gardez, Gilles de Rais, que les tourments dévastent, je vais recommencer. Lucifer m'a étreint, les flammes du brasier se tordent à mes reins. Viens petit, il ne faut point trembler, nous te dévêtissons pour te mieux caresser, tendre chair en frisson, mon joli. Tu seras notre page, nous allons bien t'aimer au délectable ouvrage. Mais mordieu, cet agneau éventré me donne par son sang la cire qui va sceller le pacte avec Satan. Je le lui tant souillé dans son âme et son corps que mon pas l'a fouillé comme le groin du porc bouge au fond de son eau. Dois l'alchimie qui fera ma fortune et l'immortelle vie, j'ai déchiré la lune avec mes frères les loups dans les bois de Tifauge en déhurlement fou. Que vienne le malin et mes gens à genoux, ce signe de la main. Va Henriette cacher en terre chrétienne ce ventre dépecé avant que le jour vienne, le jour est indiscret. Dis en vrai, lequel est le mieux fait que je l'embrasse encore de tous ces chefs tranchés. Mais mordieu, je suis ta créature quand j'interromps le cours de la triste nature qui flétrit sans amour leur fragile beauté, alors que tu les livres au temps qu'il était fait et dont je les délivre par furieuse tendresse. J'en avais dans ses voix le délicieux présage des bannières du bon droit aux immondes carnages. Elle est sainte fiefée, me léguant des ivresses où je me suis damné. Mais par ton fils en croix que tu as fait clouer, suis-je donc pire que toi? Viens Blanchet, entends-tu ce mendiant? C'est la voix d'un archange, va guérir cet enfant qu'on l'habille et qu'il mange. Mon bûcher sera sa cathédrale, qu'il y chante à ma mort jusqu'à mon dernier râle. Misère. Misère.
Et normalement, vous savez qu'on a l'obligation toutes les 20 minutes de dire Divergence FM 93.9.
Faire en sorte que l'auditeur ne saurait jamais si c'était le jour ou la nuit, quelles étaient les voix qui lui parlaient, quelles étaient les musiques qu'il entendait.
Une radio qui se risque à multiplier les lignes de fuite imaginaires. Qu'est-ce qu'une radio libre sinon?
Ces enregistrements, ces enchaînements n'étaient pas des enchaînements aléatoires au sens des sélecteurs d'aujourd'hui qui programment en fonction des beats et des rythmes.
Par exemple, on peut parler des livres sans faire la promo des livres, parler de musique en faisant vivre la musique. La radio était une expression.
C'était des enchaînements sensés, c'est-à-dire qu'on écoutait les musiques, on écoutait les paroles et on trouvait des effets de contraste et de rebondissement pour construire des mini-récits.
indépendamment des causes à défendre, un souci d'écologie de l'oreille.
C'était la période bénite où dans les radios, il n'y avait que des créatifs et pas de commerciaux.
Ça, les grosses radios ne le font pas parce qu'il n'y a rien à gagner. Ça, c'est évident. Il n'y a rien à gagner.
Vendredi Théâtre sur Divergence FM, le 93.9, avec les jingles Divergence, les jingles maison. Vendredi Théâtre, donc l'émission qui essaye d'explorer l'actualité théâtrale sur Montpellier. Et nous allons recevoir un nouveau spectacle qui s'appelle Le Premier Homme, d'après Albert Camus. Un spectacle qui a lieu à un théâtre que l'on aime bien, il s'agit du théâtre Pierre Tabar. Christopher, tu es resté avec moi, c'est oui. Toi qui as vu la pièce.
J'ai vu la
tu
pièce
peux nous
hier.
Présenter peut-être nos invités ?
Donc nous recevons pour ce plateau du Premier Homme Jeanne Poitevin qui est la metteuse en scène pour cette pièce, Stéphane Saonele, excusez-moi, et Francesca Giromella, donc vous qui êtes comédien sur le Premier Homme.
Alors le Premier Homme, c'est un texte, on va peut-être expliquer un petit peu la genèse du texte de Camus. C'est le dernier texte de Camus qui a été retrouvé dans la mallette qui l'accompagnait dans son accident de voiture. C'est bien ça?
Oui, quand il meurt dans son accident de voiture, on retrouve la mallette et le texte n'a pas été publié de suite, je crois qu'il a été publié seulement...
En 94, en fait, 94. En 1960, Albert Camus part fêter Noël avec ses enfants, les petits jumeaux Jean et Catherine Camus, qui sont à présent les ayants droit, qui sont assez retors pour donner les droits et avec qui on a été en dialogue, nous, pendant 2 ans. Donc il part fêter Noël avec eux dans sa grande maison de Lourmarin, qu'il a achetée grâce au prix Nobel 2 ans auparavant. Et la fête est belle, et puis il a son billet de train, mais il prend pas le train. Il prend sa voiture, et il rentre à Paris, et à 20 minutes de Paris, Gaston Gallimard, enfin un enfant ouais. Gallimard qui conduisait, parce qu'Albert Camus ne conduisait pas, fracasse la voiture, l'Opel Vega contre un arbre, et derrière, sur la banquette arrière, il y a une sacoche avec Othello, avec le Gai Savoir et avec le Premier Homme à l'état de brouillon.
Il me semble, je n'ai pas vu beaucoup d'adaptations du Premier Homme. C'est difficile d'avoir les droits pour adapter ce texte.
C'est très très difficile. C'est une belle aventure qui fait partie de l'aventure de notre projet qu'on porte depuis 4 ans avec des comédiens professionnels comme Francesca et Stéphane et des comédiens amateurs comme Janine qui est là, Alexandre qui est pas loin et d'autres qui ont fait les 4 ans de chantier un peu partout. Autour de la Méditerranée avec nous et obtenir les droits, c'était aussi une aventure de dialogue, d'écriture, de rencontre. Ils nous ont demandé de savoir au millimètre près ce qu'on allait faire parce qu'on fait un travail assez particulier, expérimental. Ouais. Et donc, il a fallu qu'on écrive au millimètre près ce qu'on allait faire. Ouais. Et c'était assez beau le jour où on a obtenu l'autorisation de traverser ce texte à notre façon.
Alors moi, je dois vous dire que ce texte, je le trouve superbe. Alors, quand je vois dans le programme du Pierre Tabar qu'il y a une mise en scène du Premier Homme de Camus, c'est avec curiosité que je m'y rends. Et il aurait pu s'agir d'une simple lecture du texte, mais non, on voit qu'il y a une interprétation du texte, mais aussi tout un travail particulier, puisqu'il me semble que c'est un projet en amont que vous avez réalisé avec différents publics. Peut-être pourriez-vous nous en parler un peu plus.
En fait, on comprend ce spectacle quand on connaît un petit peu les compagnies comme celle à laquelle on appartient, la compagnie Alzar, ça veut dire la chance en arabe. C'est une compagnie qui a 20 ans, qui est née au Beaux-Arts de Cergy-Pontoise et qui est revenue à sa source, c'est-à-dire à Marseille. Et c'est une compagnie qui travaille à la fois en atelier, en partage, en moment de recherche avec les différentes populations qu'on dit sensibles dans notre société, et avec les textes les plus complexes, les plus exigeants, et les acteurs les plus complexes, les plus exigeants. Donc on est dans ce processus-là, et donc Francesca, Stéphane, Christophe, Maxime, les acteurs qui font partie de la compagnie, qui auraient pu être sur ce plateau aussi d'ailleurs, sont partis à l'aventure de la rencontre des publics. Et puis, dans un des chantiers qu'on faisait en prison, sur Dans la solitude des champs de coton, l'autre texte qui est monté en ce moment au Théâtre Tabac, Bernard Latargé, qui était directeur à ce moment-là de Marseille-Provence, capitale européenne de la culture, a vu notre travail, parce qu'on fait un travail d'atelier assez particulier, une espèce de maïeutique, une espèce de grande confiance donnée aux gens avec lesquels on est en atelier. Il m'a dit, moi je veux que tu travailles sur Camus. Donc c'est quand même assez rare quand on est un metteur en scène un peu, comment dire, marginal, un peu comme ça, sur le qui-vive, qu'on nous demande quelque chose. Donc j'ai dit, bah d'accord, je vais le faire. Donc on a traversé pendant plusieurs mois différentes œuvres de Camus, et quand on est tombé sur Le premier homme, on s'est dit, bon, bah ça, il faut qu'on partage ça avec les enfants, les adolescents, les personnes âgées avec lesquelles on travaille, et nous voilà partis en aventure. Et en fait, le spectacle est la mémoire de ces aventures, de recherche des origines, à la fois des enfants, des adolescents, des personnes âgées qui étaient avec nous en atelier, et de nous-mêmes, et d'Albert Camus, qui, dans ce texte, repart sur son enfance et sur sa terre natale d'Algérie.
Effectivement, on revient sur le texte, et puis vous mettez en relief le trajet aussi d'individus qui sont issus de mélanges culturels. Dans les vidéos que vous projetez, puisqu'il y a aussi des projections de vidéos, on voit bien que vous donnez la parole à des jeunes aussi, ou à des personnes plus âgées, mais qui ont beaucoup de choses à dire. Comment ça s'est déroulé ce genre de... Enfin, c'est pas des interviews, mais ce projet avec les différents publics. Est-ce que, par exemple...
Déjà, il faut savoir que c'est Stéphane qui filme, qui est à la fois comédien et vidéaste.
C'est la question que j'allais poser.
Voilà, et que c'est pas tout à fait des interviews, c'est vraiment un long travail d'exercice, d'improvisation, de tentative, de création collective. Et qu'il y a des moments où on se dit, bon, ben là, on filme. Et on vous offre, en fait, au public, des moments qui sont des moments aussi sur la brèche, quoi. Des moments de révélation de l'instant à partir du texte. Enfin, Stéphane, tu peux en parler sûrement mieux que moi.
Oui, donc en fait, on est parti à partir de cette recherche-là sur Le premier homme, qui est l'histoire d'une biographie donc, d'Albert Camus. L'idée, c'était aussi d'essayer de faire une biographie des gens avec qui on travaillait. Donc forcément, on a pris à la fois ce texte comme trame, mais aussi comme fil à suivre, quoi. Et du coup, il y a eu beaucoup d'ateliers avec les différents publics, là, dont on parlait tout à l'heure, sur qui ils sont, d'où ils viennent, et quelles sont leurs histoires, et comment l'histoire des origines, parce qu'effectivement, cet aspect-là est très très important dans notre travail. Tu peux dire exactement d'ailleurs le titre peut-être.
Oui, le titre exact du spectacle, c'est Nord et Sud dans nos histoires et dans l'œuvre d'Albert Camus, Le premier homme. Et en fait, Albert Camus, il a écrit ce texte au début de la guerre d'Algérie. Il avait une place qui était particulière en France par rapport au monde intellectuel français. Il a pris une position particulière, très étrange, très intéressante, très riche de questions, quoi, pendant comme ça, ce démarrage de la guerre d'Algérie. Il écrit ce texte où il dit d'abord qu'il est pauvre, vraiment, à toutes les pages, on sent, on entend, on respire qu'il est pauvre. Ensuite, qu'il aime cette terre, qu'il est algérien, quoi, que c'est un Français et algérien. Voilà, ça s'appelle un métis, quoi, voilà. C'est-à-dire qu'il est à la fois de cette culture qu'il a traversée et de cette origine qu'on lui a donnée, quoi. Donc, c'est pour nous l'occasion, et je pense que c'est un cadeau énorme fait au lecteur et au peuple à venir, ce texte, parce que c'est vraiment un texte emprunt de qu'est-ce que c'est qu'être enfant des colonies, quoi, et des post-colonies. C'est-à-dire que ça me donne un peu la chair de poule quand je parle de ça, parce qu'évidemment, on s'est rendu compte, comme on est tous italien, comme Francesca, ou espagnol, comme d'autres de la compagnie, ou
vietnamien
comme Stéphane, ou je sais pas quoi, maltais, comme moi, ou d'autres, etc. On s'est rendu compte qu'on était tous emprunts de cette histoire et qu'il nous offrait la possibilité, comme une lecture, une rencontre presque organique, de remettre en question qui on est, quoi. Et je pense que si on traverse ce texte de façon belle et riche avec le public, en fait, on se pose la question de l'impossibilité du racisme et de la stupidité définitive, de la non-acceptation de l'autre et de l'autre en soi. Parce qu'en fait, on est de l'autre, comme disait l'autre, mais on est aussi tous les autres. Voilà, c'est la grande leçon de ce texte, quoi. C'est qu'on est tous.
D'ailleurs, j'ai trouvé un aspect assez pédagogique aussi dans le texte. Il me semble que vous jouez aussi ce texte à Pierre Tabar devant des scolaires. Comment est-il reçu ce texte de la part du public scolaire ?
Je pense que Francesca peut prendre la parole là-dessus, parce que beaucoup d'ateliers qu'on donne aux enfants, aux adolescents, sont donnés par Francesca. Je ne sais pas comment c'est à Montpellier, mais à Marseille, à Vitrolles, à La Ciotat, dans les villes où on travaille, il y a vraiment une étape qui est en train de se passer sur la question des origines, la question du racisme. Donc c'est urgent, en fait, de travailler des textes comme ça. Et quand on le joue, c'est encore autre chose. Peut-être, Francesca, tu peux...
Voilà, déjà, dans les ateliers, c'est impressionnant comme un texte qui est quand même... C'est un roman, c'est pas un texte théâtral, c'est une autre époque. Et tout, ça, tout de suite... offre un matériel très riche pour improviser. Et les enfants, ils adhèrent tout de suite. Et même dans les collèges, tout, où au début, c'est difficile, le rapport, trouver une confiance. Ce texte, il fait tout de suite une espèce de lien qui permet que, voilà, on peut jouer. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même... moi, c'est rare. J'ai travaillé beaucoup, même avec des textes faits pour les enfants, des pièces de théâtre faites pour les collèges. Il n'y a pas ça. Il n'y a pas Et après, hier, quand on a joué ici à Montpellier, c'est vrai qu'il y avait... À la fin, c'était intéressant. Il y a eu un débat et les gens... Ils ont posé quand même des questions intéressantes qui les ramenaient. En fait, c'est difficile parce qu'on a l'impression qu'au début, ils ne sont pas là. Et en fait, à partir de ce qu'ils disent, on sent qu'ils ont suivi et qu'en même temps, il y a quelque chose, je pense qu'il y a une... un appel à un certain engagement qui est très rare aujourd'hui et qui passe par le soleil, par la nature, par les parfums, par les souvenirs, par plein de choses. Et donc, ce n'est pas politique. Ce n'est pas comme lire Sartre, par exemple. Oui. C'est tout un autre monde. Mmh. Et je pense que si on allait avec Sartre à l'école, ce serait une autre chose. Et là, c'est tellement, c'est comme manger en fait ce livre. C'est... Et donc je pense que même les voilà, c'est ça rentre même sans vouloir et ça interpelle sans qu'on enfin, on sent que derrière il y a quelqu'un, il y a un homme qui s'est posé tellement de questions et tellement de qui a parlé beaucoup aussi de son impuissance face à la violence de ce monde. Je pense que ça fait tout de suite un lien.
Je pense que le texte de Camus est d'une telle humanité qui est tout à fait à propos pour ce genre d'ambition.
On va rappeler que le spectacle s'appelle Le Premier Homme, d'après Albert Camus. C'est au théâtre Pierre Tabar. C'est jusqu'à quand ?
C'est jusqu'à dimanche inclus.
Voilà, sinon c'est à 21h et dimanche ça sera à 18h ?
17h.
17h, j'étais pas loin. Christopher, tu nous as choisi comme petite pause musicale, hein, Edith Piaf.
Oui, je n'ai plus m'empêcher de remarquer que le personnage joué par Stéphane... Enfin,
du grand-père de Stéphane.
Du grand-père de Stéphane. Fredonne, non, je ne regrette rien, d'Edith Piaf. J'ai trouvé un lien avec l'Algérie par rapport à cette chanson, puisqu'il s'agit, puisqu'on était avec Albert Camus, on parlait de l'Algérie. Le lien, c'est que cette chanson est un chant entonné par le 1er régiment étranger parachutiste, donc les légionnaires parachutistes, au moment de la guerre d'Algérie. Et il a été dissous au putsch d'Alger en 58, il me semble. Donc on va se quitter avec Edith Piaf. Non, je ne regrette rien.
Je reconnais ton petit côté historien. Piaf, non, je ne regrette rien.
Thank you. ni le bien. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien. Le bien qu'on m'a fait, ni le mal, tout ça m'est bien égal. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, car ma vie.
Estás escuchando Divergencia FM 93.9.
Mon frère, c'était un assassin qui travaillait avec la lame. Et chaque soir, après le turbin, il faisait travailler sa femme. Mon père avait un bar de tabac, fréquenté par de drôles de têtes. Ils vivaient tous dans l'aléa et papa plaçait leur galette. J'étais alors très jeune. J'ai senti que leur bas de laine filait le mauvais coton. J'ai rompu avec ma famille. Et je suis parti un soir, comme ça, à la rue.
Et vous êtes toujours sur Divergence FM, le 93.9, avec les très beaux jingles de Divergence. Vous avez reconnu la voix de Jean Gabin qui disait un texte de Léo Ferré, de Sac et de Corde. Vendredi théâtre, dernier plateau, et j'ai le plaisir, le bonheur et l'avantage de recevoir Mathias Belair.
Bonjour, bonjour tout le monde, on est bien ici.
Bonjour.
Ça fait longtemps que je ne t'ai pas interviewé, ça fait vraiment très plaisir de te voir avec, à cette antenne.
C'est un grand plaisir de venir avec vous.
Alors tu vas nous parler de la mêlée, d'Aristophane, de la paix et de ton travail avec les lycéens.
On va essayer de parler de tout ça à la fois. Ce qui est bien, c'est que ça s'appelle déjà la mêlée, donc ça mélange tout ça. Effectivement, on va parler de quoi ? On va commencer par quoi ? Du travail avec les lycéens, de la paix. Le travail avec les lycéens, donc on a initié l'an dernier une première mêlée autour du texte d'Anok Levin, c'était Funérailles d'hiver. Donc l'idée de regrouper trois lycées sur toute la région, puisqu'il y avait un lycée d'Alès et deux lycées de Montpellier. Cette année, on a travaillé avec un lycée à Nîmes et les deux lycées de Montpellier, donc Joffre et Jules Guesd. Et pour Nîmes, c'est Philippe Lamour. L'idée de se mêler, de se mélanger, de se rencontrer, donc de faire se rencontrer déjà ses élèves, avec pour eux la mission, par exemple, sur les week-ends d'héberger les autres, de leur préparer des pique-niques, une vraie rencontre. L'idée de mêler aussi les théâtres, donc il y a le Périscope qui s'est associé à l'histoire, il y a le théâtre Jean Villard qui l'a réinitié cette année, puisque ils m'ont redemandé avec conviction de me relancer dans l'aventure, et le théâtre des 13 Vents qui est partenaire aussi sur cette opération. Et l'idée également de mêler des compagnies de théâtre, de montrer que la concurrence n'existe pas En fait, puisqu'on ne vend rien, on travaille. Ça n'a rien à voir. Et donc, effectivement, travailler avec Denis Lannoy sur Nîmes, le Triptyque Théâtre, travailler avec Catherine Vasseur des 1057 Roses et une structure nouvelle. Voilà, c'est aussi l'idée de dire que ben, une œuvre d'art, si tant est qu'elle soit artistique, en tout cas une tentative, elle peut se faire à plusieurs et il n'y a pas d'antinomie. Voilà, pour ce qui est de la mêlée. Ensuite, les élèves, voilà, ce sont des élèves qui sont issus soit d'options facultatives, donc des premières et terminales à Joffre et à Nîmes, soit d'un atelier de pratique artistique qui se fait au lycée Jules Guesde sous la tutelle de Christine Fortin. Christine Coste est à Joffre, je nomme tout le monde comme ça, c'est fait, on le fait en début. Hein. Et Isabelle Lacroix à Nîmes, voilà, parce que ça ne se fait pas sans elle. Pour le coup, sans les professeurs, sans le corps enseignant, qui est très militant, et aussi sans les lycées et leur administration, qui nous ont beaucoup suivis sur cette opération-là.
Et les enseignants aussi.
Et les enseignants, ce que je viens de dire, donc Christine et Isabelle. Voilà pour elles. Voilà, je vais te laisser placer une question quand même.
Ce qu'on peut dire, c'est que l'année dernière, il y avait 59 lycéens sur scène. C'était hallucinant. Cette année, il y a 39 lycéens.
Ce qui est pas mal non plus.
Ce qui est pas mal.
Ce qui est pas mal. On a un petit peu écrémé, effectivement. L'équipe de Joffre, l'an dernier, était très, très nombreuse. C'est vrai que cette année, ça s'est fait comme ça. C'est pas moi qui décide. Mm-hmm. J'ai essayé de garder tout le monde. Certains sont partis. Mais ça s'est un petit peu équilibré, effectivement. Mais 40 élèves, en gros, c'est un vrai bonheur. C'est de l'énergie qui n'arrête pas de faire des allers-retours entre celles que je dois donner, quand même, à minima, et celles qui rentrent, qui est assez puissante. Vous avez pu le constater, je crois. Et c'est, voilà, il y a un vrai... pour moi, il y a un... En ce moment, ma théorie et ma phrase fétiche, c'est de dire que le théâtre n'a aucune utilité. Voilà. Par contre, en faire, y aller, ça sert à quelque chose, au moins pour soi. Voilà, le théâtre en soi ne m'intéresse pas vraiment. J'aime étudier le théâtre, j'aime en lire, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est d'en faire, c'est d'en lire, c'est d'y aller, c'est d'en voir, c'est d'y participer. Et c'est ça qu'on essaye de faire avec une structure depuis 5 ans maintenant. 6 ans, 7 ans. Oui, 7 ans.
Voilà. Plutôt 7 ans.
Voilà.
Alors l'année dernière, tu travaillais sur un auteur contemporain. Et là, tu reviens avec Aristophane.
Avec Aristophane.
Pourquoi Aristophane ?
Parce que c'est
pourquoi pas
déjà, puis parce qu'un auteur mort, ça veut pas dire qu'il a plus rien à dire, même s'il est mort il y a 2700 ans, c'est pas pour rien qu'il gagnait sans arrêt les concours de théâtre qui se faisaient en Grèce. C'est que aussi je sais pas, n'importe quel texte qu'on prend, c'est la paix. Mmh. La paix qui actuellement, je trouve, résonne étrangement dans le monde qui nous entoure. C'est vrai qu'on est arrivé enfin à ce stade ultime de l'humanité où on s'entend tous et on peut tous travailler ensemble. Donc c'est vrai que redire que pendant un temps, il y a très longtemps, il y avait la guerre entre des petits clans, entre des petites personnes, entre des intérêts surtout, entre des gens, entre des économies, ce qui n'existe plus du tout aujourd'hui, mais que ça a existé, il faut se méfier que ça ne revienne pas. Je trouvais que ça, c'est important.
Gradia, tu as assisté au spectacle.
Oui, alors moi, la question que je me suis posée l'année dernière et que je me suis encore posée cette année, pour avoir été enseignante... Bon, d'abord, comment...
Tu commences très mal.
Quelle est l'alchimie que tu mets en œuvre pour regrouper ces jeunes qui sont quand même assez... Enfin, ça bouillonne de partout, quoi. C'est difficile, ils sont difficiles à tenir. Quelle est l'alchimie que tu mets en œuvre, d'un côté? Et puis, je pense aussi que tu devrais le faire avec... tu devrais créer vraiment une équipe énorme et faire que ce que tu as fait pour toi au lycée, ben, tu puisses le faire pour 10, 20, 30, 40, toute l'éducation nationale. Quoi. Parce que c'est ça qui va faire de ces jeunes gens, après, des spectateurs avertis au théâtre, qui va les faire aimer. Enfin, je sais pas, quoi. Alors...
C'est, bon, effectivement, le spectateur averti, c'est un des objectifs, puisqu'ils sont en option légère pour certains. Ils vont passer le bac, là, demain ou après-demain.
Merde. Oui.
Ils prennent.
C'est le mot que je cherchais.
Mais indépendamment de ça, oui, l'alchimie, elle est simple. Elle est à essayer de partager une aventure. elle essayait de partager un moment de compréhension. Après, je suis toujours sur une démonstration, c'est un petit peu plus aisé qu'avec des comédiens qui, eux, ils ont des a priori, mais beaucoup plus facilement balayables, les lycéens. On peut effectivement mettre de côté leur a priori de ce que c'est que le théâtre et essayer d'aller au-delà, aller vers une dynamique, vers une rencontre, vers un groupe. Après, l'alchimie, elle est simple, elle vient de Léo Ferré. L'anarchie, c'est donc l'ordre sans le pouvoir. On est d'accord. Et donc, le principe de base...
Très belle phrase de Léo.
Je prends ma grosse voix pendant à peu près un mois, deux mois, s'il le faut. Je suis très, 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 très dictatorial. Je leur dis que je serai leur seul dieu et maître pendant un temps X. Et puis, à un moment, je leur dis, voilà, Dieu est mort. il faut que vous vous appropriez cet événement. C'est le vôtre. Et prenez-le en charge. Assumez-le. Vous l'avez compris. Vous savez où vous voulez aller. Prenez-le totalement. C'est votre outil. C'est votre objet. Et à partir de là, la magie est là. Voilà, ça se fait.
Ça les responsabilise et ça les valorise. Et c'est ça qu'on ne sait pas faire dans l'éducation nationale.
Et vlan.
Et le travail collectif.
Et le travail collectif.
Hein? Et le travail choral. Parce que, non mais c'est vrai quoi. Et puis savoir lire, écrire aussi. Parce que ça non plus, on a complètement oublié de le faire. On enseigne tout un tas de techniques, mais de façon uniquement technique. Et du coup, on arrive en fac et on a en face de soi des gens qui ne savent pas lire un texte. On leur donne un texte et alors, ils n'ont rien lu, rien vu dans le texte. Ben, ça veut dire qu'ils ne savent pas lire. Ils croient qu'ils savent lire parce qu'ils savent déchiffrer. Ils savent déchiffrer, ce n'est pas lire.
Alors après, moi, je n'ai aucune pédagogie, hein, qu'on soit bien d'accord.
Alors là, c'est inné, elle est innée chez toi, la pédagogie. Alors,
en tout cas, je ne me présente pas comme pédagogue.
Bah, t'es pas Françoise Dolto et c'est tant mieux. Hein, moi, je te le dis.
J'ai rien contre les pédagogues, mais j'ai très bons amis pédagogues. Mais la chose étant, c'est vrai que quand je dis ça, ce n'est pas qu'une boutade. C'est aussi se présenter effectivement sur un projet qui est en dehors d'un cadre, en dehors d'une institution qui a ses défauts et ses qualités. Je ne suis pas aussi, aussi pointu que vous sur les défauts de l'éducation nationale, mais je sais qu'il y a des manques. J'ai eu moi-même une scolarité plutôt calamiteuse et catastrophique où me manquait justement le plaisir d'être quelque part. Donc essayer de retranscrire ça et de le redonner et de participer du coup de ce fait à l'éducation nationale, parce que c'est un endroit que je revendique aussi.
Moi j'ai quelque chose, il faut que je saute sur l'occasion.
Je t'en prie.
Mon cheval de bataille, je hais les concours de l'éducation nationale. Je hais ce système français dont la France est tellement fière, parce que justement les gens qui sont nuls au lycée sont souvent d'excellents chercheurs, d'excellents acteurs, d'excellents artistes, d'excellents universitaires. Donc cette histoire de sélection comme ça, c'est à chaque fois, s'il faut faire une sélection, c'est dans le milieu où vont se passer les choses qu'on doit faire la sélection, et non pas en amont, en menant des gens qui viennent d'un truc et qui n'ont rien à voir. Ils ont été très bons là-dedans, mais après ils vont être nuls. Au bon, On s'en fout, en fait, on ne sait rien. Une fois qu'on a analysé le concours, on ne sait pas du tout s'ils vont être bons. Ah, mais il est brillant, mais on ne peut pas être brillant en tout. Et on est brillant, moi j'étais brillant en arithmétique et nul en maths. Mais c'est comme ça. Je ne m'intéressais pas du tout, j'ai eu un mal fou à me mettre à la lecture. Merci au passage la comtesse de Ségur, mais c'est vrai quoi, et c'est tout bêtement en lisant la comtesse Ségur que j'ai commencé à adorer des livres et pas du tout avec l'école. Donc bref, il faut arrêter avec ces conneries. Les gens doivent être dans le milieu où ils vont être, et c'est là qu'on doit, si sélection doit avoir, c'est dans ce milieu là qu'on doit faire la sélection, et ne pas en amont en disant il est brillant en quoi, on n'en sait rien.
Gradia, tu voulais intervenir ?
Je voulais,
rapidement.
Très rapidement, je voulais savoir au niveau justement des fonds comment ça marche? Est-ce que l'Académie de Montpellier participe? Comment tu as pu réaliser tout ça?
Parce que je suppose que ça... le projet, il s'appuie, il est relativement économique et pas très dispendieux. On s'appuie sur, d'une part, les finances existantes sur les différents ateliers, sur donc les deux options, et également sur l'atelier de pratique artistique. Ensuite, je demande une contribution plus lourde pour les théâtres, puisque le principe est simple, on répartit sur une vingtaine de scènes ou une quarantaine de scènes, on va en répartir un certain nombre par classe qui vont les travailler à l'année durant les ateliers, durant les temps consacrés à ça. Et ensuite, chaque théâtre doit investir sur un week-end où on recevra tous les élèves. Donc trois week-ends, puisque trois lycées et trois théâtres. Donc chaque théâtre finance un lycée, finance un week-end, prête son lieu, met à disposition son équipe si possible, et nous donne la possibilité de jouer chez eux, ce qui est assez important aussi.
Je vois que l'heure tourne, on va rappeler donc que La Mêlée, ça sera au 13 vent le 3 juin. Je n'ai plus l'heure en tête.
19h, entrée libre. C'est important.
Très grand moment. Voilà. Nous, on a passé un très grand moment à Jean Villard.
Oui, oui. Bon.
On va se quitter. Merci de nous avoir accompagnés pour ce dernier plateau. Et on va se quitter, puisqu'on parle beaucoup de mariage pour tous, ces derniers temps, avec Léo Ferré qui chante un texte que Paul Verlaine a écrit tout exprès pour Arthur Rimbaud. Très bonne semaine théâtrale à tous.
Voici des fruits, des fleurs, des feuilles et des branches. Et puis voici mon cœur qui ne bat que pour vous. Ne le déchirez pas avec vos deux mains blanches et qu'à vos yeux. L'humble présent soit doux, l'humble présent soit doux. J'arrive tout couvert, encore de rosée, que le vent du matin vient glacer à mon front. Souffrez que ma fatigue à vos pieds reposée. Rêve des chers instants qui la délaceront. Votre jeune sein, laissez rouler.